18h-20h,
votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour ces deux heures d'infos. À la une de l'actualité ce soir, un Français qui est diffusé des photos et vidéos à caractère pédopornographique arrêté en Gironde. Le détail dans un instant dans votre journal, François Claus. Bonsoir François.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
18h20, les soignants à l'honneur. Demain, 14 juillet, ils seront place de la Concorde à Paris aux côtés du président de la République. Elle était invitée mais a refusé d'y participer. Claire Loupiac, son mari, médecin urgentiste, est décédée du Covid fin avril. Elle nous dira pourquoi dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix, un moment historique, dit le Premier ministre Jean Castex. Le Ségur de la Santé est signé après 10 semaines de négociations. Des avancées concrètes qu'on va décortiquer. Vos questions, bien sûr, au 39-21. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
On est ensemble jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir. Et on écoute Le Monde changer sur Europe 1.
Europe 1, il est 18h.
Il va falloir faire du dépistage systématique au niveau des aéroports, des gares maritimes et réfléchir à avoir une politique coordonnée.
Des médecins des quartiers nord de Marseille expriment ce soir leur inquiétude et constatent une recrudescence des cas dans leur secteur. Nous serons dans quelques instants en ligne avec la correspondante d'Europe 1 à Marseille alors qu'une vaste opération de dépistage se met en place en Mayenne.
Présenté comme l'un des hommes les plus recherchés au monde dans la diffusion d'images et de films à caractère pédopornographique, un homme de 40 ans a été interpellé dans la région de Bordeaux. Les précisions dans un instant de Salomé Legrand.
Plus de 8 milliards d'euros débloqués pour l'hôpital. Le Premier ministre Jean Castex signe officiellement cet après-midi les accords du Ségur de la Santé.
Certains diront que le compte n'y est pas. Eh bien, cela laisse augurer encore de beaux jours au dialogue social.
Au sommaire de ce journal également, les ultimes préparatifs d'un défilé du 14 juillet totalement inédit dans l'histoire de la République.
Et puis l'émotion à fleur de peau dans l'Orne où ont été célébrés cet après-midi les obsèques de la jeune gendarme de 25 ans renversée lors d'un contrôle routier au début du mois.
Elle a voué sa vie aux autres, c'est une véritable vocation ce métier. Malheureusement on peut en perdre la vie, dans des conditions comme ça, ça ne devrait pas arriver tout simplement.
Et nous serons dans quelques instants sur place avec l'envoyé spécial d'Europe 1, François Coulon.
La tendance météo, Anissa.
Oui, avec une dégradation demain qui arrive par le nord-ouest, il va falloir effectivement prendre son mal en patience. Si vous habitez au-dessus de la Loire, demain, ça va être gris et humide. Dans le sud, c'est toujours très agréable. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et François Claus.
La procureure de Bordeaux n'hésite pas à parler de l'une des personnes les plus recherchées au monde dans le domaine de la pédopornographie sur Internet.
Alors c'est un Français de 40 ans, François, qui a été interpellé le 7 juillet dernier dans le département de la Gironde. L'homme est soupçonné d'avoir administré de nombreux sites à caractère pédopornographique sur Internet dans ce que l'on appelle le Darknet.
Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour.
Vous êtes du service police-justice d'Europe 1 et visiblement ce soir, l'Office central de répression des violences aux personnes a fait là une très belle prise.
Et oui, ça faisait plus de 6 ans que les enquêteurs du monde entier cherchaient à le localiser, cet internaute agissait sous pseudonyme, vous l'avez dit, sur le Darknet, la partie cryptée du web d'abord, comme grand partageur de contenu pédopornographique, puis comme administrateur et super administrateur de plateformes, mais aussi comme producteur de photos et de vidéos. On n'avait jusque-là aucune idée de sa nationalité, car d'après nos informations, ce Français de 40 ans se servait de Google Translate, le traducteur de Google, pour interagir sur les forums internationaux en anglais. C'est une erreur récente qu'il aurait commise, qui a permis aux enquêteurs français appuyés par les spécialistes d'Europol de le localiser près de Bordeaux. Donc, toujours selon nos informations, ce père de 3 enfants abusait de ses 2 filles, âgées aujourd'hui de 4 et 8 ans, pour les mettre en scène dans les contenus qu'il diffusait ensuite. Employé municipal, l'homme a reconnu les faits en garde à vue. Il a été mis en examen pour diffusion en bande organisée d'images pornographiques, viol et agression sexuelle incestueuse. Il a été placé en détention provisoire.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe.
Alors que tous les regards sont tournés vers la Mayenne, des médecins tirent la sonnette d'alarme également à Marseille.
La Mayenne, où 4 centres de dépistage ont été mis en place aujourd'hui, à disposition des 300 000 habitants du département, département dans lequel 7 foyers d'infection ont été recensés. Et pendant ce temps-là, à Marseille, ce sont les médecins des quartiers nord qui constatent eux aussi sur le terrain des signes d'autant plus inquiétants de reprise de l'épidémie que l'été accélère les mouvements de population dans cette ville si attractive qu'est Marseille, Nathalie Chevance.
Oui, depuis une dizaine de jours, les personnels soignants observent effectivement que les courbes repartent à la hausse avec un doublement du nombre de cas positifs signalés toutes les 48 heures. D'où cette idée de remettre en place des brigades pour faire de la prévention, des équipes mobiles qui puissent tourner sur des lieux stratégiques comme les plages, les terrasses, les centres commerciaux. Car d'après Annie Lévy-Mosiconacci, médecin à l'hôpital Nord, les comportements se sont totalement relâchés dans une ville qui concentre un maximum de trafic pendant la période estivale. Il faut donc aussi renforcer le dépistage.
Aujourd'hui, il va falloir également, au niveau des aéroports, des gares maritimes, faire du dépistage systématique et réfléchir à avoir une politique coordonnée pour permettre d'éviter que la ville, dans une quinzaine de jours, soit une ville sinistrée par une épidémie qu'on aurait mal envisagée et anticipée. Et c'est pour cette raison que je pense que l'ARS PACA doit mettre en place ces brigades humaines qui puissent gérer justement ces populations qui ont envie de sortir, ces touristes qui ont envie de découvrir notre ville, pour ne pas qu'il y ait une récidive.
Et un appel est aussi lancé en direction de la mairie de la nouvelle maire, Michel Rubirola, médecin de profession, pour qu'une cellule de crise municipale soit mise en place dès maintenant, en cas de deuxième vague.
Merci Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Après l'appel des 14 médecins ce week-end pour une obligation du port du masque dans les lieux fermés à forte concentration humaine, voilà deux associations qui portent le débat sur le plan du droit, demandant au Conseil d'État de pousser le gouvernement et le Parlement à légiférer. François.
Deux associations, l'une de victimes, de familles de victimes, l'autre de professionnels de la santé, ceux-là même qui avaient d'ailleurs porté plainte à l'époque contre l'ex-premier ministre Édouard Philippe et contre l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn devant la Cour de justice de la République, saisie en urgence le Conseil d'État à 48 heures pour se prononcer. Le groupe pharmaceutique français Sanofi en passe de signer un accord avec l'Union européenne pour fournir 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus.
Les accords du Ségur officiellement signés cet après-midi.
Le Premier ministre Jean Castex évoque ce qu'il appelle un moment historique pour notre système de santé. Bonsoir Olivier Samin.
Bonsoir François.
Un peu plus de 8 milliards d'euros au total pour une augmentation nette d'un peu plus de 180 euros pour tous les personnels hospitaliers. C'est évidemment la mesure qu'on retient ce soir, Olivier.
Oui, mesure qui va bénéficier à 1 500 000 personnes, infirmiers, aides-soignants, personnels techniques et administratifs, qui auront droit en outre à une meilleure progression de carrière et à des renforts d'effectifs. Sachant que les médecins, eux, vont se voir attribuer une enveloppe de 450 millions d'euros pour augmenter l'indemnité qu'ils touchent quand ils consacrent la totalité de leur temps à l'hôpital et pour rendre plus attractive leur fin de carrière. Dans la cour de Matignon, tout à l'heure, Jean Castex a vu dans ces accords la démonstration de l'efficacité du dialogue social, même si, il le reconnaît, toutes les revendications n'ont pas été satisfaites.
Je fais toute confiance aux représentants des personnels des médecins pour expliquer qu'il ne s'agit pas de la fin de l'histoire. Certains diront que le compte n'y est pas. Eh bien, cela laisse augurer encore de beaux jours au dialogue social. L'essentiel, et cela s'appliquera à tous les domaines de l'action publique, c'est que de cette crise qui nous a surpris, nous ressortions parce que nous avons su, par le dialogue, tirer toutes les responsabilités, nous en sortions collectivement plus forts.
Commentaire tout à l'heure du ministre de la Santé, Olivier Véran, lui-même médecin hospitalier, juste après la signature officielle, il est des jours qui marquent une vie. Ce 13 juillet 2020 marquera la mienne.
Merci Olivier Samin. Deux organisations syndicales de médecins non signataires, représentant notamment les urgentistes et les jeunes médecins, estiment de leur côté que les débuts de carrière ont été oubliés et que ça ne résout pas à terme le problème du manque d'attractivité des carrières au sein de l'hôpital public. On précisera que les discussions sur la question importante de la réorganisation des hôpitaux dans leur fonctionnement et dans leur administration se poursuivent.
Et bien sûr, on va en parler dès 18h30 dans les grandes voies. 39-21 pour intervenir.
Une baisse du nombre de victimes en France sur les routes de 29,1% au mois de juin. Cela fait 85 décès épargnés par rapport au mois de juin de l'année dernière.
Ils ont mené une guerre ce printemps. Ils seront à l'honneur demain sur la place de la Concorde à Paris.
C'est l'hommage de la nation à ses soignants pour un défilé inédit dans l'histoire des 14 juillet, sans remontée des champs, sans véhicule et sans public, et avec ceux qui se sont retrouvés sur le front du virus à l'hôpital et qui se sont soumis cet après-midi à une répétition à laquelle vous assistiez pour Europe 1, Johanna Chabas.
Oui, les pas étaient hésitants. Les 20 soignants civils mis à l'honneur essayaient de suivre à la lettre les militaires qui guidaient leurs mouvements au son de la musique. Les infirmiers et médecins ont fait le parcours deux fois, défilé devant l'obélisque de la Concorde, déploiement d'un gigantesque drapeau français, puis chant de la Marseillaise devant la tribune présidentielle. Après les répétitions, Valérie, pharmacienne, était encore très impressionnée.
Forcément, c'est tout nouveau, on découvre, on est un peu ému forcément, mais je pense que demain ça va être encore pire. C'est pas un exercice habituel, mais bon, ça va se faire, c'est pas compliqué.
Les répétitions étaient courtes, à peine une heure, les organisateurs veulent laisser place à de la spontanéité. Une seule demande à ce que les soignants viennent en blouse. Thibaut Brancardier attend demain avec impatience.
C'est une grande fierté, oui, de pouvoir représenter son métier au 14 juillet. Ça rajoute une pression supplémentaire, hein. C'est pas tous les jours qu'on peut défiler devant le président de la République, je pense.
Demain, il ne restera que quelques minutes devant le président de la République, le temps de Dezine. Sa famille, très fière, a déjà prévu d'enregistrer toute la cérémonie.
Merci Johanna Chabas.
Et mon invité dans 10 minutes, Claire Loupiac, son mari médecin urgentiste, est mort fin avril du Covid. Elle a refusé de participer à ce 14 juillet demain.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Thierry Dagiral et François Claus.
Et dans un instant, l'émotion dans le département de l'Orne pour les cérémonies d'obsèques de la jeune gendarme tuée lors d'un contrôle routier au début du mois de juillet.
Europe 1.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal. François Claus, Thierry Dagiral.
Écran géant et émotion à son comble cet après-midi à la Ferté-Massé dans le département de l'Orne, François.
Là où Mélanie Lemay résidait et où se déroulaient cet après-midi les obsèques de cette gendarme de 25 ans mortellement renversée lors d'un contrôle routier le 4 juillet dernier, avec un moment d'une très grande densité émotionnelle, François Coulon.
Oui, à 14h, La Ferté-Massé, 5000 habitants, c'est comme figé dans la douleur et le souvenir, recueilli autour du cercueil de Mélanie recouvert du drapeau tricolore. Au premier rang, la dignité des parents qui refusent de sombrer dans la haine, comme le souligne le diacre et ancien gendarme Philippe Auffray.
Malgré les circonstances horribles du décès de Mélanie, malgré votre chagrin, nul désir de vengeance. C'est aller à l'encontre des valeurs qui ont fait la vie de Mélanie. L'héroïsme, c'est aller jusqu'au don de sa propre vie si nécessaire pour protéger les autres. Nous pouvons dire qu'une héroïne est née parmi les enfants de notre commune. Et si les jeunes ont besoin de modèles, que Mélanie soit ce modèle.
Alors à l'extérieur de Notre-Dame de l'Assomption, un écran géant retransmet la célébration devant 200 à 300 personnes très émues, à l'instar de Christian et Jean, anciens compagnons d'armes de Mélanie.
Elle a voué sa vie aux autres, c'est une véritable vocation ce métier. Malheureusement, on peut en perdre la vie, on en a conscience, mais dans des conditions comme ça, ça ne devrait pas arriver tout simplement.
Je suis de tout cœur avec sa famille. C'était quelqu'un qui, étant dans la gendarmerie, a décidé d'offrir sa vie pour le bien des Français. Il y a un mépris des forces de l'ordre, de l'autorité, et c'est catastrophique.
Sur le cercueil de Mélanie, l'insigne de la Légion d'honneur reçu à titre posthume par celle qui a par ailleurs été élevée au grade de major.
François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France.
Les juges reconnaissent le caractère antisémite pour le meurtre de Mireille Knoll.
À l'encontre de deux des suspects, cette octogénaire juive avait été tuée à Paris en mars 2018. Les deux principaux suspects seront donc poursuivis pour meurtre sur personne vulnérable commis en raison de la religion de la victime.
Et on en reparlera longuement dans le journal de 19h. On termine avec le football, François. Manchester City aura finalement le droit de disputer les Coupes européennes lors des deux prochaines saisons.
Oui, une nouvelle qui va réjouir les amateurs du beau football griffé Pep Guardiola, un peu moins peut-être les tenants de l'éthique dans le sport. Le double champion d'Angleterre en titre avait été suspendu par l'UEFA au nom du fair play financier. On ne dépense pas plus d'argent qu'on en gagne. Eh bien, le tribunal arbitral du sport, bonsoir Christophe Lamarre.
Bonsoir François.
A retoqué tout simplement les arguments de l'UEFA.
Oui, et s'il y met les formes sur le fond, c'est sévère. Le tribunal arbitral du sport estime que le dossier est vide. Les faits ne sont pas établis ou alors, s'ils le sont, ils tombent sous le coup de la prescription. Que reprochait l'UEFA à Manchester City ? D'avoir gonflé artificiellement les comptes, externalisé certaines dépenses pour tromper la vigilance des experts. C'est ce qu'avaient révélé les Football Leaks, cette enquête européenne menée par des journalistes. La décision du TAS est terrible pour l'UEFA, selon Pierre Rondeau, économiste et co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès.
Il y a eu magouille, il y a eu dopage financier, il y a eu non-respect des règles du fair play financier. C'est avéré. Sauf que les faits étant prescrits, eh bien, Bien que l'UEFA ait sanctionné City pour non-respect du fair play financier, le TAS n'a tout simplement appliqué la loi, appliqué le règlement et n'a pas sanctionné Manchester City.
L'UEFA sort fragilisée de cette affaire. Les faits qu'elle a instruits étaient donc couverts par la prescription. C'est un autre procès qui pourrait s'ouvrir, bien que symbolique, le sien. Sur les réseaux sociaux, certains la taxent d'incompétence, d'ignorance ou pire, l'accusent de cynisme.
Merci Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1.
Et merci à vous François Claus. Le rappel des titres à 18h30. À tout à l'heure. Avec Anissa, le temps change demain, Anissa. Hein
ouais, effectivement, Thierry, à cause d'une perturbation qui arrive dans la nuit sur le nord-ouest. Alors demain matin, des pays de la Loire, en passant par la Bretagne et la région parisienne, bien sûr ces régions, le ciel sera bien plus couvert qu'aujourd'hui avec des averses. Pas très intense, mais très fréquente tout au long de la matinée. Puis dans l'après-midi, les nuages vont atteindre la Lorraine. Pour les régions situées au nord de la Loire, demain, l'après-midi va se dérouler sous les nuages avec des averses donc tout au long de l'après-midi. Au sud de la Loire, de la Gironde à l'Alsace, le ciel est voilé demain. Et plus nous irons vers le sud, plus le soleil sera présent. Alors sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et les reliefs corses, des orages vont éclater demain dans l'après-midi, mais uniquement en altitude. Les températures, comptez 11 à 16 degrés demain matin sur le nord, 8 à 10 degrés dans le Grand Est, c'est là qu'il fera le plus frais, 14 à 22 degrés dans le sud. Et puis dans l'après-midi, ça va baisser, on va le sentir, avec 19 à Brest, 20 à Lille, 22 à Nantes et Lorient, 23 à Biarritz et Paris, 27 à Nice et Clermont-Ferrand, 28 à Bordeaux, 30 à Lyon, 32 à Montpellier, 34 à Nîmes. Il fait toujours très chaud dans le sud.
Et les météos des plages à 18h30 à Nice. Merci.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Thierry Dagiral, avec votre invité dans un instant.
Hommage demain donc de la nation aux soignants. Ils seront plus d'un millier place de la Concorde autour d'Emmanuel Macron. Elle a refusé d'y participer. Son mari, médecin urgentiste, est mort du Covid fin avril. Claire Loupiac est mon invité dans deux minutes sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous Thierry Dagiral. Alors que le président s'apprête à rendre hommage demain 14 juillet aux soignants, vous recevez ce soir Claire Loupiac, la veuve du docteur Éric Loupiac.
Bonsoir Madame Loupiac.
Bonsoir.
Merci d'être en direct sur Europe 1. Votre mari Éric Loupiac est décédé le 23 avril dernier, il avait 60 ans. Il était urgentiste à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Demain vous ne serez pas place de la Concorde, où vous aviez pourtant été invité. Hein.
Oui.
Pourquoi ?
Pour moi, cette invitation est inconvenante et j'ai l'impression qu'on voudrait remercier, que le président voudrait remercier mon mari d'avoir bien voulu prendre le risque de se faire contaminer dans un hôpital qui était sous-équipé.
Est-ce que ce n'est pas le moyen, au travers de votre mari, de rendre hommage à tous ces soignants qui se sont mobilisés pour nous, pour les Français, pour les citoyens ?
Excusez-moi, j'ai pas compris.
Est-ce que ce n'est pas... un bel hommage aussi demain à tous ces soignants qui se sont mobilisés pour nous, pour les Français.
Alors, pour moi, je regrette qu'on ait mélangé la fête nationale, le 14 juillet, avec l'hommage aux soignants. Pour moi, l'hommage aux soignants décédés devait être rendu sous forme d'un deuil national, comme cela a été fait dans différents pays, dont l'Italie, l'Espagne, la Chine. J'ai l'impression qu'en France, on ignore les victimes et on mélange les choses.
Madame Loupiac, vous serez... néanmoins à Paris demain, aux côtés de Patrick Peloux, avec vos trois enfants, pour défiler de la République à Bastille, c'est bien ça ?
Oui, je participerai à cette manifestation. Je veux dénoncer le manque de considération des soignants de la part de nos dirigeants. Ils ont organisé à la hâte le Ségur de la Santé, avec de faibles augmentations de salaire, et cela me donne la triste impression qu'il fallait atteindre le chiffre énorme de 40 000 morts, dont beaucoup de médecins, pour que ce gouvernement se décide enfin à réagir.
Madame Loupiac, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont de faibles augmentations de salaire, ce Ségur de la Santé, plus de 8 milliards pour les personnels hospitaliers, 10 semaines de négociations, une révision des grilles de salaire pour certains métiers, une nouvelle majoration des heures supplémentaires, c'est quand même une avancée importante.
Il y a aussi quelque chose de très important, c'est le manque d'effectifs de médecins.
Madame, 15 000 emplois susceptibles d'arriver dans l'hôpital public.
Mon mari a porté de nombreuses réclamations auprès de la direction de l'hôpital, auprès de l'ARS. C'était toujours pour une amélioration de la qualité des soins. Jamais il n'a été écouté. Il voulait que le nombre de lits diminue. On arrête de diminuer le nombre de lits, on arrête de les fermer. Au contraire, on a fermé une ligne de SAMU à Lons. On a diminué l'effectif des médecins aux urgences. Là, je pense que dans le Ségur de la santé, il n'est pas question d'augmenter l'effectif des médecins. Et ça, c'est grave.
On va revenir sur l'histoire de votre époux, madame. Il prend sa garde le 7 mars dernier. Il n'a alors qu'un masque chirurgical, c'est bien cela ?
Oui. Uniquement un masque chirurgical.
Et pourtant, l'hôpital assure que tout le matériel était disponible et en règle pour le protéger. Hein.
Oui, mais mon mari savait que l'hôpital n'était pas prêt.
Il le savait, et pourtant il est parti au travail, comme tous les jours, faire sa garde.
Oui. Et il me disait, je vais prendre un risque, mais il faut que je soigne les malades, je suis obligée d'y aller. Et ça, je m'en veux, j'ai laissé partir comme ça, alors qu'il savait qu'il n'était pas assez protégé.
Les symptômes se déclenchent le 16 mars, il est soigné à Marseille, dans le service du professeur Raoult. Ça ne fonctionne pas, et il décède le 27 avril, exactement.
Ah oui.
Madame Loupiac, vous deviez déposer plainte contre l'hôpital, contre les ministres Buzyn et Véran. Vous en êtes où de cette plainte ?
Alors, cette plainte est entre les mains de l'avocat. Il est en train de finaliser et elle va être déposée d'un jour à l'autre.
Vous attendez quoi ?
Alors, j'attends des explications de ce qui s'est passé dans cette crise. Et il y a beaucoup de coupables. J'ai énormément de preuves. Et de toute façon, pour moi, cette catastrophe, 40 000 morts, c'est une catastrophe, c'est une hécatombe. Mon mari avait suivi ce qui se passait en Chine, en Italie, et il m'a dit on va exactement faire pareil. Et effectivement, on a fait pareil. Et pour moi, il est hors de question que nos dirigeants s'en sortent avec les honneurs.
Votre mari aimait l'hôpital public, c'était sa mission de soigner les malades coûte que coûte. Vous continuez quelque part son combat ?
Oui, je continue son combat. Je le fais pour sa mémoire, c'est ce qu'il aurait voulu que je fasse. Je veux que les conditions de travail à l'hôpital s'améliorent, que la qualité des soins s'améliore.
Qu'est-ce que vous dites ce soir, Madame Loupiac, à la veille de ce 14 juillet, au président Macron ?
Je voudrais que le président Macron écoute les réclamations des soignants. La santé est quelque chose de très important dans un pays, c'est le numéro un même dans un pays. Si les soignants ont des réclamations, ce n'est pas au hasard s'ils font ces réclamations, il faut les écouter, c'est pour la population. Et je ne voudrais pas qu'une crise comme ça recommence, c'est la crise de trop. Et mon mari, malheureusement, en est la victime.
On parle beaucoup d'une seconde vague. Il y a ces images de foules rassemblées, notamment à Nice ce week-end pour un concert. Cela vous inspire quoi, Madame Loupiac ?
Alors, pour moi, le masque devrait être obligatoire. On ne va pas discuter là-dessus, on le rend obligatoire.
Le Conseil d'État, d'ailleurs, a été saisi.
Moi, dès que je sors, j'ai tout le temps le masque dans un magasin. J'ai le masque, mais je vois que je suis pratiquement la seule.
Un dernier mot, Madame Loupiac. Vous regarderez demain matin l'hommage aux soignants, néanmoins. Vous serez attentif aux mots du président ?
Peut-être que je regarderai le soir, mais là, le matin, je serai dans le train. Donc je ne pourrai pas regarder en direct à la télé.
Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Claire Loupiac, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur Europe 1.
Je vous en prie, au revoir.
Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix ce soir, Rosine Fèvre de France 24 et Alexandre Malafaï du think tank Sinopia. On parle du Ségur de la santé qui est signé depuis 3 heures maintenant. A tout de suite.
Europe 1. Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Avec le rappel des titres de l'actualité, François Claus.
C'était l'un des hommes les plus recherchés au monde dans le domaine de la diffusion d'images et de films à caractère pédopornographique. Il a été identifié, c'est un Français de 40 ans dans la région de Bordeaux. Il a été interpellé, a annoncé aujourd'hui la procureure de Bordeaux au terme d'une longue enquête de longue haleine menée conjointement par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes et Europol dans ce monde très obscur du Darknet. Alors qu'en Mayenne, on a commencé aujourd'hui à procéder au dépistage massif de la population dans des centres spécialement dévolus, des médecins des quartiers nord de Marseille s'inquiètent